Je voudrais vous saluer tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et tous vous souhaiter les bienvenus, particulièrement ceux qui sont venus de loin. Que le Seigneur puisse bénir tous et être avec tous ceux qui sont connectés. Il y en a beaucoup dans le monde entier en ligne, plus que nous ici rassemblés. Et nous sommes certains que le Seigneur fidèle aujourd'hui nous bénira richement. Je voudrais aussi au commencement remettre la salutation. J'ai entrepris un petit voyage missionnaire en Amérique du Sud, au Brésil, et le Seigneur a vraiment accordé sa grâce et les cœurs et l'intelligence pour les Écritures. Il les a ouverts et les frères vous remettent les salutations, particulièrement les frères dans le ministère. Nous sommes tous liés les uns avec les autres dans l'amour du Christ. Et la grande grâce que nous avons dans ce temps de vivre dans le temps de la technologie, où tous peuvent, même en ligne, suivre les réunions, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est ainsi que cela est aussi possible que l'épouse soit apportée à marcher dans le même pas et que tous puissent suivre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et c'est ainsi que nous serons préparés pour le retour du Seigneur. Oui, soyez tous souhaitez les bienvenus dans le prêchant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons aussi maintenant chanter ensemble quelques cantiques et le Seigneur va vraiment nous bénir. Commençons avec le numéro 16. Numéro 16, blanc, plus blanc que neige. Amen. Chantons encore le cantique 27. Le numéro 27. Amen. Merci. Oui, la grâce de Dieu, l'œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha, bien mes frères et sœurs, nous ne pouvons jamais assez remercier le Seigneur pour cela et louer le Seigneur. Et toujours de nouveau nous rappeler de ce que le Seigneur a fait de grand en nous. Par sa grâce, nous pouvons aujourd'hui être ici rassemblés sous l'écoute de sa sainte parole. Et nous sommes certains que le Seigneur, encore aujourd'hui, parlera à nos cœurs. Je voudrais, comme introduction, avant que le frère Albert Ford prie, lire une parole. Elle a été très souvent lue dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, il s'agit ici du retour du Christ. Et ici, l'apôtre, à partir du verset 9, à cause du contexte, je voudrais lire 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir du verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mais maintenant suit une partie joyeuse. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification que crée l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Bien, frères et sœurs, quelle certitude! Ce que les hommes de Dieu ont reçu du Seigneur, ils l'ont prêché et ils l'ont transmis aux autres. Et Paul était certain, il pouvait dire que si quelqu'un vient vous dire autre chose, ou bien enseigner autre chose, que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit maudit, car il avait reçu le Seigneur par révélation. C'est ainsi que nous avons ce témoignage de la vérité ici dans les Saintes Écritures. Et c'est pour cette raison que c'est si important. Il dit, parce qu'ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, bien mes frères et sœurs. La parole doit devenir un avec nous. Nous devons devenir un avec la parole. Elle doit devenir une partie de nous, être ancrée en nous, être écrite en nous, dans le plus profond de notre cœur. Et nous devons veiller sur cette parole que nous avons reçue dans notre cœur pour que personne ne nous la dérobe. Car nous savons que l'adversaire, n'est-ce pas, comme un lion rugissant, rôde. Et pour chercher qui pourra engloutir, il commence en essayant de dérober la parole qui a été semée dans le cœur. Si elle n'est pas plantée profondément dans le cœur et qu'elle a produit des racines, il pourra nous la dérober et elle ne produira pas de fruits. C'est peut-être raison que c'est important que nos cœurs soit vraiment ferme et que l'adversaire ne vienne pas comme un oiseau, comme c'est écrit dans Matthieu 13, pour dérober cette parole. Que le Seigneur puisse richement nous bénir ce soir. Nous nous levons pour la prière. Nous voulons prier ensemble. Père céleste, nous te remercions de ce que ce soir nous pouvons être ici. Et nous avons déjà entendu une parole glorieuse, merveilleuse. Nous te remercions de ce que tu nous as fait grâce, de recevoir l'amour pour la vérité. C'est toi qui l'as ancré dans notre cœur. Et nous avons écouté la vérité. Et la vérité nous a rendus libres de tous les mensonges. Et nous te remercions ce soir. Et nous te demandons ensemble, viens parmi nous, comme tu l'as promis. Ô Seigneur, agis par ton Saint-Esprit, par ta parole, et bénis tous, âgés et jeunes. Seigneur, tu sais ce dont nous avons besoin ce soir. Nous avons besoin que tu puisses nous vivifier nouvellement. Oui, toute l'Église, oui, tout ton peuple, dans le monde entier, Seigneur, que tu puisses recevoir ce qui te revient de plein droit. Ce soir, conduis aussi notre frère par ton Saint-Esprit à dire ce que tu veux dire. Et accorde-nous la grâce et des cœurs qui sont ouverts pour écouter, pour croire. Et pour te faire confiance ce soir, Seigneur, nous croyons que tu le feras ce soir et que tu feras toutes choses bien ce soir. Nous te remettons cette réunion. Oh, couvre-nous tous par ton sang. Pardonne tout ce qui se tient devant toi et empêche que tu puisses agir. Seigneur, agis puissamment par nous. Parmi ton peuple ce soir, nous te le demandons dans ton précieux nom, dans le nom de Jésus. Amen. Chantons tout de suite, crois seulement, crois seulement. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, je voudrais vous saluer tous fraternellement dans le nom précieux et saint de notre Seigneur, bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Rédempteur. Nous sommes aujourd'hui ici, du nord au sud et du sud de la Finlande, de la Suède, oui, jusqu'en Roumanie, de l'Irlande, de toute l'Europe, de la Suisse, de l'Autriche, de partout. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons ainsi nous rassembler pour écouter la sainte et précieuse parole dans sa forme originale. Pas d'interprétation, pas d'explication, mais telle que la parole fraîche du trône de Dieu avait été révélée aux prophètes et donnée aux prophètes et aux apôtres par l'inspiration du Saint-Esprit, comme c'est écrit, des saints hommes poussés par le Saint-Esprit, poussés par l'Esprit de Dieu. Ils ont parlé de la part de Dieu, poussés par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous sommes reconnaissants de ce que Dieu ait conduit les choses ainsi et que nous avons la grâce de croire comme le dit les Écritures. Rapidement et très rapidement, vraiment, seulement les salutations remises, oui, du monde entier. Mais aujourd'hui, nous avons parmi nous des frères qui sont là pour la première fois du Mali. Et oui, d'où encore, levez-vous s'il vous plaît, qui est là aujourd'hui pour la première fois? Nous avons un diplomate ici. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes ici, Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oui, que le Seigneur bénisse tous. Même un jeune homme qui, dans un entretien vendredi, disait « Je suis catholique ». Mais nous donnons à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, la foi. Le Seigneur peut transformer tous. Il y a un frère de l'islam et nous pourrons rendre des témoignages. Il y a tout à l'heure, le frère Mike a rendu témoignage de ce que Dieu fait dans le golfe du Perse, à Dubaï, à Abu Dhabi, au Pakistan. Et imaginez-vous l'homme du gouvernement qui, lors de la dernière fois, nous avait souhaité la bienvenue, appartenait aux 19 qui s'étaient laissés baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu conduit d'une manière merveilleuse, pas de nom et de rang, mais tous nous pouvons nous soumettre sous la main puissante de Dieu et lui donner raison à lui. Et nous devons dire toujours aux hommes, Dieu a un dessein du salut. Et c'est selon ce dessein du salut qu'il accomplit tout. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, nous avons le privilège d'avoir part à cette œuvre. Encore une bonne nouvelle que notre frère Michael a amené. Un homme des États-Unis, une personne des États-Unis qui n'est-ce pas, travaille dans un programme de concert de pétrole en Perse. Chez lui, c'est pas seulement l'huile, le pétrole qui coule, mais l'argent coule aussi chez lui. Mais il a été saisi par la parole. Et il a dit, je suis prêt à financer une station de télévision pour que ici, la parole et partout dans la région soit propagée. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu prend vraiment soin de ce que de tous les peuples, les langues et les nations, le dernier message soit entendu de tous et qu'il soit appelé à sortir. Il y en a qui se plaignent de ce que on ne fait pas assez attention aux mails qu'ils écrivent. Mais il y a le frère Schmidt, s'il te plaît, ici, il y a un mail en russe. Regarde, s'il te plaît. Et aussi encore un mail en russe. Regarde, s'il te plaît. Et ici, notre bien-aimé frère Hans-Peter Scherer de la Suisse nous envoie les salutations. Et un frère Marcios Lucius nous envoie les salutations. Et un frère de Goma nous envoie des salutations. Un frère de Bagaluva nous remet des salutations. Un frère de Pretoria et les autres frères ici, un frère Victor nous envoie des salutations, un frère Odolo nous envoie des salutations et un frère Gracian d'Israël nous envoie des salutations et ensuite le frère Norman nous envoie des salutations et Ensuite, notre frère Bruce Kloot de l'université de Kapstadt nous envoie les salutations. Et Sébastien nous envoie les salutations. Et oui, nous avons ici Emilio qui nous envoie les salutations. Et un frère Numbugayo nous envoie les salutations. Et aussi un frère, oui, c'est le même. Et encore notre frère Ilunga de l'Amérique du Nord. Ensuite, notre frère de Pretoria remet cette salutation fraternelle. Et le frère de Denver salue fraternellement. Et le frère Donati nous salue fraternellement. Le frère Gerlando salue fraternellement. Le frère Yapi salue fraternellement. Et le frère Lupondo salue fraternellement. Et encore le frère Leonard, le frère Paul Nyagi, le frère Mozambique remet les salutations. Et le frère Kalou Badi remet les salutations. Et Caleb salue fraternellement. Et Anthony salue fraternellement. Et Dr. Jojava salue fraternellement. Michaelov salue fraternellement de la Bulgarie. Et le frère Frederico salue fraternellement. Et le frère John de Bucarest salue fraternellement. Le frère Boniel salue fraternellement. Le frère Deo salue. Des frères d'Abidjan nous saluent. Et encore un frère Santos nous salue. Le frère Doudoula salue. Et des frères de l'Angola, de Luanda nous saluent. Ici, il y a un frère qui salue toute l'Église. Et j'essaie encore de voir son nom. Magnosa José, salue fraternellement. Et encore les salutations de la région de la montagne ici et des salutations de Taba Mata de l'Afrique du Sud. Et le frère Schmidt vient justement de me remettre les salutations de Bashkirien. Et encore une fois les salutations de Tartakistan. Nous sommes presque à la fin avec les salutations. Le frère Dr. Mbie salue très particulièrement. Le frère Mwamba salue fraternellement. Le frère Wagner de l'Autriche salue fraternellement. Le frère Mönch de l'Autriche salue. Le frère Jürgen de Santiago salue. Le frère Müller du lac de l'Est nous salue. Le frère Jacques de la Côte d'Ivoire. Encore le frère Deo de Kigali. Et Lotika de l'Australie salue. Le frère Lam salue des montagnes. Le frère Draze salue. Le frère Baumgartner salue. Le frère Solomon de l'Irlande salue. Le frère Salomon de l'Autriche, encore le frère Le Pondou et le frère Cécile du Pretoria, Ellis Wendel Edmonton. Nous saluons avec 1 Jean 2, verset 16 jusqu'au verset 17. Le frère Trapané, le frère Badi d'Abidjan et le frère Thyssen de Berlin. Et encore une fois, le frère Ngonga et encore le frère Mbié et le frère Nyagi. Remercions le Seigneur pour nos frères qui aussi sur toute la terre sont éparpillés pour porter la parole, prêcher la parole. Et nous sommes ici pour distribuer la nourriture divine. Le Seigneur lui-même a dit, et le psalmiste l'a confirmé, il disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu dans Deutéronome. Et le psalmiste dit, tu me prépares une table devant mes adversaires. Dieu nous prépare une table toujours bien garnie et nous pouvons nous nourrir des biens précieux de la maison de notre Dieu. Aussi, nous n'avons pas pouvoir entrer dans la politique, et je veux dire dans ce qui se passe aussi actuellement sur terre. Pardon, tout est en mouvement, tout est en mouvement, en remuement, et le monde, comme jamais auparavant, est mouvementé, est arrivé à un point où il n'y a pas de solution. Ici, nous avons un mail sur la présidence de Trump. Il entreprendra une visite au Vatican, le président américain donc, hein, et tout est déjà préparé. Et ensuite, Trump veut saluer l'Arabie Saoudite, que la Palestine, etc. La région. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Nous savons que le temps est là et que le dernier empire est l'empire romain. Et c'est ainsi que c'est dans l'histoire, c'est ainsi que ce sera à la fin. Et nous sommes très reconnaissants de ce que nous avons la grâce de reconnaître, dans quel temps nous sommes arrivés. Et je vous dis très sincèrement, quand nous pensons ce que Dieu, depuis la Réformation, a fait, nous devons vraiment penser à combien ont perdu leur vie pour que nous puissions avoir dans toutes les langues la parole de Dieu. Dieu a, je lis en ce moment les commentaires sur tous ceux qui, déjà pendant la Réformation ou bien avant la Réformation, ont exécuté leur mandat, leur appel, mais il y a quelque chose qui m'a ébranlé comme jamais auparavant. Et ça, je vais aussi vous le dire tout de suite au commencement, vous le lire, pour que vous puissiez savoir pourquoi est-ce que nous soulignons le sujet sur la divinité et que nous le présentons bibliquement. Nous devons l'éclaircir bibliquement. Vous savez qu'il y a eu différentes disputes avant la Réformation et après la Réformation, mais ici, il s'agit d'un point à chaque mois de l'Église évangélique. Il y a, n'est-ce pas, cela qui a édité ici, la chose suivante qui est écrite. La procédure la plus connue a été celle contre Michael Servet. Peut-être que nous lisons 2-3 phrases. C'était un médecin espagnol qui rejetait la Trinité, Et maintenant, suit. Il a été condamné. Il y a eu un procès. Et il a été condamné, mais à ce temps, à l'époque, la condamnation de mort existait pour tous ceux qui avaient rejeté la Trinité. Ici, c'est écrit, ce sont les trois piliers, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce qu'ils disent, les piliers de l'Église chrétienne, des Églises chrétiennes. Et ensuite, je vous le lis ici, c'est ce qu'ils disent, l'enseignement de la Trinité, donc l'union de trois dieux, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu est constitué de trois personnes et le pilier, les piliers de la religion chrétienne est celui qui touche à ces piliers selon l'opinion de l'époque. Il commet un crime qui doit être condamné à mort à l'époque. La justice voyait pour tous ceux qui prévoyaient, pour tous ceux qui rejetaient l'enseignement de la Trinité, la condamnation à mort. Pour Michel Serviette, cela a été écrit qu'il a été condamné à Genève, comme Hus à Constance a été condamné. Et l'un parce qu'il avait résisté à l'Église catholique et l'autre parce qu'il l'avait rejeté et ne pouvait pas supporter l'enseignement sur la Trinité. Et que ouvertement il s'est exprimé là-dessus. Nous ne portons pas un jugement. Mais dites-le vous-même, si Dieu, d'éternité en éternité, existerait en trois personnes, ça, voilà la photo donc, de ce qu'ils disent la Sainte Trinité. On voit trois personnes, le Fils est Dieu, est tout puissant, le Père est tout puissant, et le Saint-Esprit est tout puissant, représenté par une personne ici. Et celui qui regarde dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, il sait qu'avant l'année 325, il n'y avait pas eu une seule fois une dispute sur ce sujet, que Dieu serait constitué de deux ou de trois personnes. Et celui qui connaît l'histoire de l'Église sait très exactement que c'est en 323 que le Saint-Esprit a été déclaré comme la troisième personne de la divinité en 335. Mais pour l'Église catholique, qui autrefois avait existé dans l'Empire romain, c'était la chose principale. N'est-ce pas? Mais pour nous, en tant qu'Église du Dieu vivant, la chose principale, c'est le fondement. Le fondement qui, par les prophètes et les apôtres, a été placé, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Quand j'ai lu cet exposé, cela m'a ébranlé, m'a saisi dans le plus profond de mon être. Je me demande aujourd'hui, et je ne vais pas nommer le nom du frère, qui, avec un prédicateur pentecôtiste, a parlé du baptême au nom de Seigneur Jésus-Christ. Un prédicateur pentecôtiste qui a du succès. Et il a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai baptisé des milliers au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Des milliers. Qu'est-ce que toi, tu veux qu'est-ce que tu veux de moi? Dieu a donné son OK au baptême que j'ai entrepris. Et si vraiment nous pensons à ce que même après l'effusion du Saint-Esprit, en 1906, l'effusion du Saint-Esprit la plus connue à Los Angeles, sur la Azusa la rue de la Souza. Et quand on s'imagine, quand on pense à ce que, malgré cette expérience surnaturelle, que tous parlaient en langue et prophétisaient, malgré tout cela, ils sont restés dans leur doctrine. Et quand nous regardons dans l'histoire de l'Église, tous les réveils ont eu leur spécialité. Et je peux particulièrement me rappeler alors que c'était quand? C'était en 1967 au Canada, à Saskatchewan, j'avais prêché et dans une église mennonite. Et dans cette église mennonite, toutes les sœurs étaient vraiment habillées tip-top. Vraiment, il n'y avait rien, il n'y avait pas de décollage, elles étaient vraiment habillées tip-top. Parce que dans cette église, ils avaient mis l'accent sur le vêtement, sur la décence des sœurs. Et ils ont dit, c'est comme ça que vous devez vous habiller. Exactement. Pas de rien de décolleté, rien. Et chaque communauté qui a apparu, tous ont, n'est-ce pas, fixé quel est leur sujet principal et leur chose principale.
Mais
ce qui nous a inondé notre cœur à nous et la chose pour laquelle le Seigneur a envoyé Frère Branham, c'est vraiment pour nous ramener au commencement. Pas seulement que nous, les sœurs savent s'habiller, mais il s'agit aussi que nous puissions revenir à la parole. Et en ce qui concerne la divinité, n'est-ce pas? C'est avec ce sujet que tout commence. Et nous sommes reconnaissants pour le Nouveau et l'Ancien Testament. Le seul Dieu constitué d'une seule personne. Il est écrit plus de 5000 fois dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il est parlé d'un Dieu qui est seul, le seul Dieu constitué d'une seule personne. C'est ce Dieu seul-là qui, pour notre salut, en tant que Père au ciel et dans son Fils engendré, seul engendré par lui, sur terre, et en nous, par le Saint-Esprit, s'est révélé. Ce ne sont pas trois personnes, mais un seul Dieu qui, lui, personnellement, s'est révélé, s'est manifesté pour que nous puissions, en tant que fils et filles de Dieu, de nouveau être ramené dans la position prévue pour nous. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous ne sommes pas restés à l'enseignement, mais nous avons aussi eu la grâce réellement d'expérimenter personnellement ce que Dieu a promis, que ce soit que ce soit la repentance, la conversion, que nous puissions regretter notre vie menée sans Dieu, nos actions posées sans Dieu, et que nous puissions dire, Seigneur, fais-moi grâce, moi pécheur, pardonne-moi toutes mes fautes. Et nous pouvons regarder dans la Bible et que nous puissions venir vraiment au Seigneur, car il a dit, celui qui vient à lui ne sera pas rejeté, mais peut venir à lui, viendra à lui. Pourquoi est-ce que j'ai mentionné certaines choses? Pour que nous puissions devenir reconnaissants, pour que nous puissions être reconnaissants de ce que à la fin du temps de la grâce, Dieu ramène l'Église dans l'état qui existait au commencement. Et que en toute chose, aussi, nous pouvons croire, nous puissions croire, comme dit les Écritures, et recevoir dans tout notre cœur, que les sœurs reçoivent ce qui est dit aux sœurs, que les femmes reçoivent ce qui est dit aux femmes, que les maris, que les hommes reçoivent ce qui est dit aux maris et aux hommes, que chacun puisse avoir un oui intérieur entier pour chaque parole adressée à sa personne. Et que nous puissions aussi chacun faire toutes les expériences du salut. Vraiment une vraie, authentique conversion. De se tourner, de rencontrer personnellement Christ. Et que nous puissions, à 180 degrés, nous retourner de la manière vécue et revenir au Seigneur. Et encore, cette pensée très importante. La parole est la semence. Et la parole, c'est elle qui est placée, semée dans notre cœur. Et comme le frère Miskis déjà le disait, la semence, n'est-ce pas, n'est pas comme ça, semée, comme ça, sur le sol pour que les oiseaux puissent venir la prendre. Non, Non, le grain, la semence est implantée profondément dans notre cœur. C'est pour cette raison que Dieu a dit que j'écrirai ma parole sur leur cœur, ou bien dans leur cœur. Dans l'Ancien Testament, la parole était écrite sur des pierres. Mais dans le Nouveau Testament, la parole est écrite sur nos cœurs. Et c'est ainsi que nous avons la grâce de croire de tout notre cœur et de recevoir la parole de tout notre cœur. S'il vous plaît, supporter que nous parlons de ces articles sur Luther, c'est Erasmus et tous ces réformateurs, n'est-ce pas? Il y a des exposés sur tous les réformateurs. Mais quand j'ai lu que la condamnation à mort avait été, tous ceux qui rejetaient la divinité, la Trinité, avaient été menacés d'être condamnés à mort. Il y a eu des époques comme ça. Bien, frères et sœurs, comment est-ce que nous pouvons être reconnaissants aujourd'hui, même si nous vivons dans ce temps? Je le dis ouvertement et clairement, où nous sommes la seule communauté qui est attaquée, qui est mal comprise, aussi des médias. Nous ne sommes pas bien traités du tout. Pourquoi? Quand, si nous allions avec toute la foule, avec toute la masse, alors tout serait en ordre. Mais nous nageons contre le courant. Et Dieu nous a déterminés à nager contre le courant. Vous, mon peuple, sortez du milieu de Dieu. Ne touchez à rien de plus. Séparez-vous. C'est ainsi que je vous exhorterai, je vous agréerai et que je vous bénirai. Vous savez pourquoi est-ce que nous venons nous rassembler? Il est encore écrit dans Deutéronome, le chapitre 4, Deutéronome, au chapitre 4, au verset 10, Deutéronome, chapitre 4, verset 10, chapitre 4, verset 10. Souviens-toi particulièrement du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. La terre, afin qu'ils apprennent à me craindre, afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Rassemble-moi le peuple. Auprès de moi, le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles. Et cette pensée m'est venue, l'exhortation dans Hébreu. L'exhortation dans Hébreu m'est venue dans la pensée en lisant cette parole. Dans le chapitre 10, ici, il est parlé des assemblées, des réunions, et il est écrit ici, dans Hébreu, le chapitre 10, à partir du verset 23, et ensuite, à partir du verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité mutuelle et aux bonnes œuvres. Maintenant, suit le verset que je veux souligner, verset 25. En n'abandonnons pas notre assemblée. Dans chaque assemblée, dans chaque réunion, Dieu nous parle. En n'abandonnons pas nos réunions. car dans chaque réunion, Dieu parle, comme c'est la coutume de quelques-uns. Oui, mais il y en a, c'est devenu leur coutume, leur habitude. Ils viennent à la réunion quand ils le veulent. Ils ne viennent pas quand ils ne veulent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ici, il est écrit, en n'abandonnant pas nos réunions. En allemand, en ne manquant pas de prendre part à nos réunions, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Encore plus nous voyons le jour s'approcher. Rassemble-moi mon peuple pour qu'il puisse écouter ma parole. Oui, pour qu'il puisse écouter ma parole, les paroles de Dieu et les recevoir écrits sur leur cœur et vivre selon cette parole, ordonner leur vie selon cette écriture. En ce qui concerne le déroulement des choses, du temps dans lequel nous vivons, c'est ainsi que Pierre, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, le premier chapitre, comme déjà nous l'avons lu, dans 2 Pierre, le chapitre 1, et ici, à partir du verset 16, 2 Pierre, chapitre 1, verset 16, de Pierre chapitre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà autrefois, le sujet principal, c'était le retour de Jésus-Christ. Et bien, nous continuons ici à lire. Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Est-ce que tous les frères, aussi tous les prédicateurs, dans toutes les églises, ne pensent pas à cela, que le Fils de Dieu, ici sur cette terre, est né et qu'il n'est pas né au ciel? Il est né sur terre. Est-ce qu'ils ne pensent pas à ça? Est-ce qu'ils ont oublié ce qui avait été promis dans la prophétie biblique, dans tout l'Ancien Testament? Promis, sa naissance ici sur cette terre avait été promis et prédite que la Vierge enfantera et qu'un fils, et le fils naîtra, et qu'il lui sera donné le nom d'Emmanuel. Ce que nous lisons ici, ce n'est pas accompli au ciel, c'est accompli sur terre. Combien de fois nous devons, en cet endroit, le dire, je souhaiterais que je pourrais vous transmettre la douleur que je ressens. Aussi pour tous les frères pentecôtistes, aussi pour tous les évangélistes connus dans le monde, tous sont restés dans leur vieille direction, ont continué à marcher dans leur vieille direction. Et ils ont tamponné frère Branham en tant que faux docteur, parce que lui, il a exposé la vraie divinité de Dieu et prêché le vrai baptême d'eau. À leurs yeux, il était un faux docteur. Mais qui est un faux docteur aux yeux de Dieu? Celui qui enseigne la vérité est envoyé de Dieu. Et c'est ainsi qu'il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Je le répète encore une fois, alors que je lisais cela, concernant la condamnation de mort ou bien à mort, concernant qui doit être exercité à tous ceux qui rejettent la doctrine de la divinité. Bien, frères et sœurs, quelle grâce Dieu nous a faite. Répétons cela encore. Dans durant tous ces différents réveils puissants, et celui qui lit de Graham Zinzendorf, qui a fondé l'église pentecôtiste, il y avait eu des prophéties, il y avait vraiment l'action du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a vraiment agi. Des hommes sont devenus croyants. Mais maintenant, à la fin du temps de la grâce, Dieu veut ramener tout dans l'état qui existait dans l'église primitive au commencement. Et Dieu l'a fait par sa grâce. Il a envoyé son prophète avec un mandat, n'est-ce pas, pour apporter le message avant le retour de Christ, qui ensuite sera porté dans le monde entier. Et ça, c'est cet accompli par la grâce de Dieu réellement. Ensuite, il est écrit ici toujours dans 2 Pierre au chapitre 1 au verset 18 maintenant, 2 Pierre chapitre 1 verset 18, et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, témoins oculaires et oculaires concernant ce qui s'est passé autrefois. Et maintenant, cet homme de Dieu directement vient à parler du point important et écrit ici au verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. En allemand, et nous possédons. Nous possédons la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et ça, c'est vraiment accompli dans notre temps. Pas seulement des vérités à moitié, pas seulement la réformation, mais il s'agit du rétablissement. Plus de réformer maintenant, mais c'est de rétablir, de ramener à Dieu, de ramener à sa parole, de ramener au fondement antique placé par les prophètes et les apôtres. Je ne sais pas si cela vous enthousiasme de voir la grâce que nous avons trouvée devant Dieu. Je crois que j'étais à Zurich, où j'ai dit en insistant concernant Michael, Micha, Dieu prend plaisir à la grâce, à la miséricorde, à faire grâce, à faire miséricorde. Dieu, on peut encore le lire, il prend plaisir à la grâce, à la miséricorde. Et celui à qui Dieu fait grâce, il lui fait grâce. Et celui à qui il lui fait miséricorde, il lui fait miséricorde. Ici, dans Michée, le chapitre 7, c'est après Jonas. Vous pouvez toujours le relire, ce verset, ce chapitre 7. Michée, chapitre 7, verset 18, 19, 20. Quel Dieu est semblable à toi? Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité? Qui oublie les péchés du reste de ton héritage?
Seines Eigentumsvolkes vorübergeht.
Quel est semblable à toi? Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité? Qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Qui a ôté les péchés du reste de ton héritage? Et tous, vous savez où est-ce que cette parole est écrite? Qui a cru à notre message, à notre prédication? Cela n'est pas écrit dans Ésaïe 66 et pas non plus dans Ésaïe 10. Cela est écrit dans Ésaïe 53, justement dans le chapitre où le salut de Dieu en Christ Jésus jusqu'à la croix est décrit dans tous ses détails. Un homme de douleur qui s'est chargé de tout sur lui, toutes nos maladies, il s'est chargé de nos souffrances, frappé de nos maladies, méprisé, et tout ce qui a été fait de lui. Dans Ésaïe 53, le chapitre commence comme ça. Qui a cru à notre prédication? Pas à n'importe quelle prédication, mais justement à la prédication concernant ce que notre Rédempteur sur le chemin à Golgotha a subi comme souffrance et sur la croix à Golgotha a vécu. Alors qu'il a porté toute notre malédiction, notre condamnation, au propre, il ne ressemblait même plus à un être humain. Et sur la croix, à Golgotha, il s'est écrié, tout est accompli. C'est en cela que personne a le droit de s'en détourner et de le mépriser. Car ça a été le plus grand jour dans l'histoire de toute l'humanité. Quand notre Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, a apporté le sacrifice et le sang de la nouvelle alliance a coulé. Et l'alliance a été faite avec nous. Et tous nos péchés et nos fautes ont été pardonnées. C'est pour cette raison que ce n'est pas seulement un message, mais c'est le message divin de la pleine rédemption, du plein pardon et de la pleine réconciliation avec Dieu. Et ensuite, il est écrit ici, dans le même verset, dans Michée, chapitre 7, verset 18, à la fin du verset 18, « Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne garde pas sa colère à toujours, éternellement. Car il prend plaisir à la miséricorde. » Déjà dans l'Ancien Testament, il prend plaisir à la miséricorde. Aujourd'hui, je l'ai dit rapidement, je ne peux pas bien m'imaginer comment est-ce que notre Seigneur, qui est amour, aurait pu dire à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi. On ne peut pas s'imaginer. Mais ils ne voulaient pas venir à lui. Ils l'ont rejeté. Et si on le rejette, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui reste au Seigneur de faire? Si maintenant nous venons à lui, alors nous serons aussi à lui, auprès de lui, quand il reviendra. Nous irons aussi à lui quand il reviendra. Si nous venons à lui maintenant, nous irons à lui quand il reviendra. Mais que tous ceux qui maintenant n'ont vraiment pas entièrement consacré leur vie au Seigneur, jeunes et âgés, il n'y a pas un chemin qui peut se détourner de ça. Jésus-Christ est la porte. Il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Il n'y a pas d'autre chemin en dehors de lui pour venir au Père. Venez à lui, consacrez-lui votre vie et demandez-lui de vous pardonner. Et il prend plaisir à le faire. Il pardonne les iniquités. Ensuite, versets 19 et 20, après cette expression merveilleuse de la fin du verset 18, que Dieu prend plaisir à la miséricorde, il écrit sur verset 19, « Il aura encore compassion de nous. » Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est vraiment accompli. Et nous pouvons chanter. J'ai été délivré de mes péchés et je suis entré dans la joie. Nous ne croyons pas à n'importe quoi. Nous croyons exactement à ce que Dieu a promis et à ce que Dieu a fait. Et comme nous l'avons déjà mentionné, aussi dans Matthieu 26, verset 28, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour le pardon des péchés de beaucoup. S'il vous plaît, acceptez ce don de grâce de Dieu gratuitement. Que cela ne passe pas à côté de vous. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, nous ne voulons pas endurcir notre cœur. Donc fermer notre cœur, mais l'ouvrir. Peut-être que cela déjà, en regard au souper du Seigneur ce soir, doit être déjà dit maintenant. Lors du souper, on peut, et seulement des hommes pourront prendre part au souper qui ont eux-mêmes personnellement expérimenté la grâce de Dieu, qui vraiment peuvent dire, mes fautes sont pardonnées, je suis libre, je suis affranchi. Christ m'a accordé la vie, m'a donné sa vie, je suis affranchi. Car dans le souper, nous témoignons, n'est-ce pas, ce qui a été accompli pour nous sur la croix à Golgotha. Et nous témoignons que nous l'avons reçu, nous avons accepté cette œuvre accomplie et que personnellement, nous avons été inclus dans cette œuvre accomplie de la rédemption. Et c'est ainsi que nous appartenons à l'Église de la Nouvelle Alliance par la grâce de Dieu. Encore le dernier verset ici dans Michée 7. Le verset 20 maintenant. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Au jour d'autrefois. Dieu en toi, en moi, témoignera fidélité, fera grâce. Nous vivons encore dans le temps de la grâce. Il nous fera encore compassion. C'est encore le jour du salut, le jour favorable. Et aujourd'hui, nous allons nous laisser recevoir de Dieu ce don de la grâce. Nous, dans toutes les assemblées, les églises qui vivent encore dans l'éparpillement et qui n'ont pas encore reconnu la raison pour laquelle Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, dans notre génération, c'est-à-dire pour nous ramener à lui, au commencement, à sa parole, vraiment au commencement. Acceptons ça, recevons cela de la main du Dieu Tout-Puissant, pas seulement parler du message, parler d'un message, mais de lui prêter l'oreille, à celui qui nous parle par sa parole et avec nous, pour que nous puissions de tout notre cœur recevoir sa parole et la croire et expérimenter personnellement ce qu'il nous a promis. Quand nous pensons à Romains, le premier chapitre, et nous allons venir à encore ce qui va se passer ce soir, c'est-à-dire le souper du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a vraiment donné cette grâce de croire, fait cette grâce de croire et de croire de tout notre cœur, de croire ce qui est écrit dans la parole. Ici dans Romains, le premier chapitre, au verset 5, nous lisons, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Pas seulement de prêcher, mais d'exhorter, d'avertir, de faire suivre à la foi, à notre foi, l'obéissance. Car la désobéissance est comme le crime de la sorcellerie. Donc, nous devons ajouter à notre foi l'obéissance à la parole de Dieu que nous croyons. Que Dieu puisse vraiment, de tout notre cœur, nous faire grâce et nous accorder cette foi qui est ancrée dans la parole de Dieu, la foi qui est selon les Écritures, dont le Seigneur a dit lui-même, celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures, de ce corps couleront des eaux de vie. Et je m'attends à ce que je crois pas qu'il y aurait quelqu'un qui, sous l'écoute de cette véritable prédication, vit et se tient, peut rester dans toutes les doctrines et les interprétations qui ont existé depuis les âges, aussi même après la Réformation, toutes ces choses qui ont été crues et pratiquées. Je crois que Dieu a créé quelque chose de nouveau, comme il est écrit, tout nouveau. Il fait toutes choses nouvelles. Et seulement si Dieu a pu faire un nouveau commencement avec nous. Et disons aussi cela encore une fois, bien mes frères et sœurs, tel que notre vie terrestre commence avec la naissance. Chacun reçoit un extrait de naissance. Hein, il est écrit sur la scène la date de notre naissance, l'heure, etc. Le nom. C'est comme ça que notre vie spirituelle commence, telle que la vie naturelle commence. Notre vie spirituelle commence avec une nouvelle naissance. C'est pour cette raison que notre Seigneur a dit avec toute la clarté, si ce n'est que quelqu'un naisse d'en haut, naisse de nouveau, sinon il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et Jacques écrit dans son premier chapitre, de son épître, au verset 18, né de nouveau par la parole permanente et vivante de Dieu. Jacques 1, verset 18, et Pierre aussi écrit au verset 23 de 1 Pierre, chapitre 1, né de nouveau par la semence incorruptible de la parole de Dieu, de la semence de Dieu. Pourquoi est-ce que nous mettons de l'importance, de la grande importance sur la parole de Dieu qui est la semence qui est implantée en nous? Seulement si la semence est semée et produit en nous et tombe dans notre cœur, l'Esprit de Dieu a seulement alors la possibilité de venir sur nous à cause de la parole qui a été semée dans notre cœur pour créer sa vie. Et encore, nous avons un verset que nous voulons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, au chapitre 3. Nous lisons
2 Corinthiens, 3. Capitel,
disons à partir du verset 6, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bien, frères et sœurs, je voulais aujourd'hui amener avec moi la confession de foi de tous les Israélites, particulièrement de tous ceux qui prient, aussi de tous ceux qui vont au mur de lamentation et vraiment crient, se lamentent et prient. Ils ont la lettre de Deutéronome, le chapitre 6. Écoute, Israël, le Seigneur, ton Dieu, est un seul Dieu, et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. J'ai seulement apporté la Messouza avec moi, qui a le même texte. Cette Messouza est accrochée en Israël, sur chaque porte. Celui qui entre dans un bâtiment a seulement besoin de regarder à sa droite, dans chaque hôtel. Dans chaque bâtiment, partout, dans chaque pension, dans chaque hôtel, dans chaque maison. Mais c'est la lettre, ils ont la confession juive, israélite, dans cet objet. Mais bien, frères et sœurs, la parole écrite, elle a été vivifiée pour nous. Elle est devenue vivante par la grâce de Dieu. Et tous nous savons que ce verset biblique-là aussi me touche vraiment le cœur. Luc chapitre 12, où notre Seigneur autrefois a prêché et des grands signes et des prodiges ont été faits. Et malgré tout, ils ne croyaient pas à son témoignage. Luc 12, Dieu peut faire de grandes choses, mais celui qui ne croit pas, on ne peut pas l'aider. Il ne peut pas être aidé. Toutes ces paroles-là m'ont touché le cœur durant tous ces différents jours. Quand, si je pouvais simplement les transmettre, mes frères et sœurs, soyez reconnaissants. Reconnaissants pour ce que Dieu, par sa grâce, a fait en nous. que nous puissions l'accepter, tout, tout par la grâce de Dieu. Résumons de quoi il s'agit. Pas seulement que Dieu ait fait un nouveau commencement il y a 500 ans d'ici, et particulièrement dans notre pays. Aussi, le 31 octobre est devenu, a été déclaré comme une fête nationale, n'est-ce pas? Le 31 octobre, tout le pays sera libre parce que cela reflète les 500 années depuis que Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur cette cathédrale. Oui, mais à quoi est-ce que ça sert d'avoir un jour de vacances, donc un jour férié, le 31 octobre? Qu'est-ce que cela nous a apporté? Oui, ils ont fait que inventer des nouvelles dénominations et directions de foi. Mais à la fin du temps de la grâce, et ça nous le disons, à la fin du temps de la grâce, tout sera ramené au commencement. Tout sera semblable au commencement. Nous vivons justement dans le temps du rétablissement, plus de la réformation, mais du rétablissement de tout ce qui existait dans l'Église primitive. Tout ce que Dieu a donné à l'Église primitive sera restitué dans l'Église aujourd'hui. Et nous avons la grâce de porter cela dans notre cœur, cette parole précieuse, et de, comme une trompette, la porter dans le monde entier et dire: ceci est le jour que le Seigneur a fait pour nous. Ceci est le temps que Dieu a déterminé à ce que nous puissions écouter les paroles qu'il nous a transmises par sa grâce. En regard au souper du Seigneur, il y a tout un nombre de versets bibliques d'écriture, et le verset principal, n'est-ce pas, est écrit ici dans 1 Corinthiens chapitre 10, dans 1 Corinthiens chapitre 10 et 1 Corinthiens chapitre 11, que chacun s'examine lui-même et ensuite qu'il mange. Il ne s'agit pas d'examiner l'autre, d'examiner les autres, mais que chacun s'examine lui-même. Lisons cela, ces exhortations précieuses de 1 Corinthiens, le chapitre 10. Ici, nous lisons ces paroles précieuses. 1 Corinthiens, chapitre 10. Ici, l'exhortation de notre Seigneur, que nous puissions tous partager un seul pain. Ici, 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sein de Christ? Le pain que nous rampons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Vous savez, notre Seigneur a parlé en parabole. Il a même dit: je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Il a, n'est-ce pas, exprimé toutes ces paroles en parabole. Et ici, l'apôtre écrit et dit: la coupe de bénédiction, c'est déjà une coupe bénédiction, béni. Pensez à Abraham, pensez à Melchisédek. Le roi de Salem a pris du pain et du vin et il est venu à Abraham et il l'a soupé avec lui. après la victoire des rois, sur la victoire sur les rois qui avaient attaqué le peuple d'Israël. Nous aussi, bien frères et sœurs, nous allons fêter la victoire de notre Dieu quand le Seigneur reviendra et nous prendra avec lui au festin des noces de l'agneau. Nous fêterons la victoire de Golgotha en tant que troupeau racheté par le sang, en tant que troupeau bâti du Saint-Esprit, en tant que des gens qui ont été privilégiés à être fils et filles de Dieu. Oui, est-ce que, pendant que je mentionne cela, je pense, n'est-ce pas, à cette nouvelle Bible de Luther. Là, il n'est plus écrit il ne sait pas combien de milliers de mille versets ont été changés. Il n'est plus écrit « Ne mettez pas la lumière sous la table, mais sous le seau ». Il n'est plus écrit « Tous les frères tel et tel », mais il est écrit « Tous les frères et toutes les sœurs ». Ils ont vraiment changé la Bible. Ils ont fait une édition comme ils le veulent, là où des versets sont adressés aux frères, ils ont mis les sœurs là-dedans. Qui peut comprendre ça? Où reste le respect devant Dieu? Où reste le respect devant la parole de Dieu? Et ici, nous voyons et nous écoutons la coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rampons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, pas un Eucharistie, selon le Dieu Soleil, qui ensuite est transformé en corps de Christ. Non, et encore une fois, non. Mais, comme il est écrit ici, puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Tel que cela se passe avec le blé, qui est récolté. Et de ce blé, et devient de la farine et on fait du pain. C'est comme ça qu'avec tous les croyants qui sont, n'est-ce pas, le blé sur terre, nous devons être unis avec Dieu, de manière que personne n'existe pour lui-même, mais tous, nous formons l'union avec Dieu en Christ, en tant qu'un corps du Seigneur, jusqu'à que nous puissions dire, si un membre souffre, tous les membres souffrent. Et si un membre est honoré, tous les membres sont honorés. Et dans 1 Corinthiens, je réjouis, 1 Corinthiens, le premier chapitre, nous lisons ces paroles merveilleuses. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, pardon, nous lisons ces paroles que Paul a écrites à partir du verset 23. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ensuite, il est écrit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve, verset 28, soi-même, et qu'il et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Résumons très rapidement tout. Le Seigneur appelle le peuple de la Nouvelle Alliance pour la dernière fois à se rassembler. Et tous ceux qui entendent sa voix croiront sa parole, oui, la recevront et la recevront révélée. Et répétons cela encore et à chaque fois. Rassemble-moi, mon peuple, pour que je leur fasse entendre mes paroles. Disons aussi encore cela. Dieu nous a accordé la grâce par quelque part comme ça dans un réveil ou bien dans le réveil pentecôtiste de rester dans un réveil ou bien dans les réveils pentecôtistes, mais il nous a donné la grâce de revenir au commencement en croyant comme le dit les Écritures et expérimentant ce qu'ils ont expérimenté et baptisé comme ils ont baptisé, et que cela reste vrai pour toujours. Celui qui maintenant a accepté ce que Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a donné par Golgotha, par le sang précieux, saint, qui a coulé pour nous. Tous, nous savons que la vie est dans le sang. Et ça, je le répète toujours très volontiers, particulièrement lors du souper. Aussi certain que la vie était dans le sang divin, c'est ainsi que cette même vie éternelle est dans le troupeau racheté par le sang. C'est ainsi que dans notre... c'est aussi certain que nos péchés sont pardonnés, que nos péchés sont expiés. La lettre de qui l'acte de condamnation a été effacé. Et c'est ainsi que nous pouvons dire, moi aussi, je suis un pécheur qui a trouvé grâce devant Dieu. Dieu m'a fait grâce parce que il prend plaisir à la miséricorde, pas à la condamnation, pas à condamner, mais à faire miséricorde, à sauver, à faire grâce. Il prend plaisir à faire grâce. Dieu prend plaisir et il prend plaisir à toi et à moi parce que nous avons accepté le pardon qu'il prit plaisir à nous donner. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit, il y aura de la joie au ciel pour quand un pécheur se répand. Il y aura de la joie au ciel. Il y a de la joie au ciel. Que aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, d'une manière particulière, extraordinaire, agisse et que nous puissions tous croire comme le dit les Écritures, et nous attendons à recevoir ce que Dieu nous a donné, et à prendre part à ce qu'il fait maintenant. Nous sommes très reconnaissants à Dieu. Nous lui devons beaucoup de reconnaissance encore aujourd'hui, et tous ceux qui dans le monde entier écoutent, qu'ils soient tous bénis. Aussi même la dernière partie ne sera pas, donc notre souper du Seigneur ce soir ne sera pas transmise, mais partout où ils sont, qu'ils puissent aussi fêter le souper tel que dans la Bible cela nous a été transmis, et que tous dans le monde entier soient bénis et aient la compréhension de ce que nous allons arrêter la connexion. Nous aurons pendant ce temps pour nous ici le souper et aussi le lavage des pieds. Que Dieu le Seigneur vous bénisse tous. Donc le repas du Seigneur, qu'il nous bénisse et soit avec nous tous. Amen. Levons-nous pour la prière. Pendant ce temps, les frères vont préparer la table et nous pouvons chanter un cantique ou bien un chœur ensemble. J'entends que je suis à rien de moi.
Thank you.